Alors rassurez-vous, je ne vais pas venir là deux semaines de suite. Je voulais juste, ce matin, vous présenter Jean-Daniel qui va apporter le message. Beaucoup, beaucoup d'entre vous le connaissent, mais peut-être que les années passant, certains n'ont pas connaissance de la famille Jean-Daniel, Pascaline, Coraline, Ilian et Emmanuel qui nous viennent du Burkina. Donc juste quelques mots. Et je voudrais avant lire ce passage dans le psaume 133. « Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse versée sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et sur le col de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les hauteurs de Sion. En effet, c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Et c'est une grande joie pour moi ce matin de votre présence à tous, mais plus particulièrement de Jean-Daniel et Pascaline et leur famille devant nous. Donc en quelques mots, Jean-Daniel et Pascaline étaient dans notre église jusqu'en 2008 et ils ont décidé de repartir. Ils ont été appelés à repartir au Burkina Faso, pays d'origine de Pascaline, avec un rêve. Et ce rêve, c'était de construire le collège Martin Luther King, c'est pour ça qu'il y a l'idée du rêve derrière. Et ce collège est maintenant en place, un lycée est en phase de préparation aussi. Et depuis 2008, donc ils ont œuvré là-bas en partant de rien, pour suivant l'appel de Dieu, en laissant tout ce qu'ils avaient ici, mettre ce collège en place, pierre après pierre. Et pierre vivante aussi, puisqu'il a fallu le remplir d'enfants, et il se remplit de plus en plus, et trouver une équipe autour d'eux pour les aider. C'est un poids qu'ils portent avec joie pour l'Éternel. Et moi, j'ai eu l'occasion d'y aller au mois de janvier cette année pour voir, alors qu'on y était allé en 2008, où on avait vu un terrain en friche, la brousse, et pour voir des bâtiments remplis d'enfants et remplis d'hommes et de femmes qui s'engagent pour la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu resplendisse dans ce pays et pour mettre dans le cœur de ses enfants la vraie connaissance de Dieu et ce dont on a abordé pendant notre introduction, pour que tout le reste de leur vie, ils puissent vivre selon les voies de l'Éternel. Et donc, c'est une grande joie de les avoir parmi nous. Il y a 2 ans qu'ils n'étaient pas revenus en famille, au moins, c'est ça. Et de les avoir. Alors, on les a peu vus ici parce que quand ils sont là, ben, ils essayent d'aller dans la famille un peu partout. Ils ont eu besoin de vacances aussi. C'est un grand plaisir de les avoir parmi nous ce matin. Et c'est avec grande joie que je laisse la place à Jean-Daniel pour nous apporter la parole. Et puis, je crois que Pascaline, en fin de culte, pendant les annonces, nous partagera quelques pensées et quelques encouragements. Merci.
Bonjour à chacun d'entre vous. C'est toujours un plaisir et une joie de revenir à Prefsaint. C'est l'église dans laquelle j'ai grandi, dans laquelle je me suis formé spirituellement. J'ai forgé mes premières armes dans la prédication. On m'a fait confiance et on m'a poussé de l'avant. Et c'est marrant parce que je voulais commencer en disant qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Donc l'esprit ne se contredit pas. Effectivement, c'est une grâce de pouvoir, dimanche après dimanche, se retrouver ensemble. Nous, des frères et des sœurs en Christ Jésus, ce n'est pas le cas partout, dans la liberté, dans l'amour et dans l'unité de l'esprit. On a beaucoup parlé de l'esprit ce matin, et on va continuer à en parler de toute manière, donc vous verrez que ça ne se contredit pas non plus. Mais vraiment, en tout cas, on est très heureux avec Pascaline, à chaque fois qu'on revient dans le pays de Gex, de revenir à Prefsaint, de garder des liens, c'est important, d'avoir des gens qui prient pour nous, parce que ça aussi c'est important. Les attaques de l'ennemi, elles ne sont pas virtuelles. Et j'avoue qu'en partant là-bas, si le Seigneur nous avait dit toutes les attaques qu'on allait subir, peut-être qu'on ne serait jamais parti. Et on a découvert ce que c'était que le combat spirituel. En tout cas, moi surtout. Je pensais qu'on partait là-bas, le Seigneur contrôlait tout, puis que ça allait se passer assez facilement. Ce n'est pas toujours le cas. Mais avant de partager la parole avec vous, j'aimerais demander à Raymond, vous savez, dans la vie, Dieu met des hommes et des femmes sur votre chemin, qui vous construisent, qui sont des repères, qui sont des grands frères, des grandes sœurs dans la foi. Et Raymond en fait partie pour moi. Et je lui demandais de prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur, afin que ce soit son esprit qui nous conduise. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle de l'atmosphère de cette assemblée, ouvre nos cœurs et permette à la semence de sa parole de tomber dans une bonne terre. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en tant que papa et Pascaline, en tant que maman, quand on regarde un petit peu le monde autour de nous, on commence à avoir très peur, à se demander, mais où est-ce qu'on va ? Les bruits de guerre se multiplient. L'évolution de la société en France, moi personnellement, m'a complètement horrifié en quelques années, voir les lois qui ont été prises. Et c'est comme si, aujourd'hui, les dernières pièces d'un puzzle sont en train de se mettre en place. La Bible nous dit de nous préparer au retour de Jésus. Il va revenir. La Bible nous dit que dans les derniers temps, le message du royaume sera prêché. Et après ce message-là, peu de temps après, la fin viendra et le jugement viendra. Et moi, j'aimerais qu'on s'exhorte ce matin, parce qu'un chrétien ne doit pas avoir peur. Un chrétien au moment de la difficulté, un chrétien au moment du doute, un chrétien où toutes les solutions semblent s'écrouler pour le monde, doit montrer le chemin, doit être la solution, doit être la référence, doit être celui qui adopte des choix et qui a des comportements et des attitudes différentes du monde ambiant. Or, malheureusement, dans de nombreuses églises, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, on a tendance à vouloir faire rentrer le monde dans l'église. On a tendance à vouloir gérer l'église comme on gère une entreprise. On a tendance à vouloir mener nos vies en conformité avec le monde, parce qu'on veut être dans la norme. Ça coûte de ne pas être dans la norme. Ça coûte de laisser son confort. Ça coûte de parler de Jésus et de ne pas avoir honte de tenir position pour lui. C'est pas simple tous les jours. Et ça sera de moins en moins simple. Quand on voit l'évolution en Europe, on pourrait se dire qu'avant on pensait à l'Afrique avec une islamisation rampante, mais en Europe, les lois vont de plus en plus dans un sens contraire à la parole de Dieu. Et alors on se dit, mais comment agir ? Comment parler à nos enfants ? Quelle attitude adopter ? Et bien souvent, malheureusement, on a tendance à réagir dans la chair. On veut se révolter, on veut parler haut, on veut créer plutôt des fractures que d'être des réconciliateurs et d'être des gens simplement qui témoignent au quotidien l'amour de Jésus et qui comprennent qu'on est dans ce monde, mais qu'on n'est pas de ce monde. Qu'on a des lois et des principes spirituels que nous enseigne la parole de Dieu, que Jésus a mis en application dans sa vie et qui doivent nous servir d'exemple pour savoir réagir au temps de la difficulté, au temps de l'épreuve, au temps des attaques. Et nos armes ne sont pas charnelles. Nos armes, elles sont spirituelles. C'est pour ça que ce matin, j'ai été touché qu'on ait autant parlé du Saint-Esprit. Pendant très longtemps, on a négligé le Saint-Esprit. Pourtant, aujourd'hui, sur terre, c'est lui qui œuvre à travers nous. C'est lui qui nous met en relation avec le Père. Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de christianisme. Il serait totalement vidé de son sens, totalement vidé de sa substance. Et le Saint-Esprit, c'est une personne. Quelle relation est-ce qu'on a avec cette personne ? Est-ce que l'on comprend qui on est en Christ Jésus ? Est-ce que l'on a conscience de notre identité ? Est-ce qu'on a conscience du rôle que l'on a à jouer sur cette terre ? Et j'aimerais ouvrir la Bible avec vous dans 2 Corinthiens 5, verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quelle grâce de se dire que le jour où nous appartenons à Jésus, le jour où nous confessons Jésus dans notre vie, où nous lui abandonnons toute notre vie, parce que bien souvent on devient chrétien, mais on aime garder des secteurs ou des pans de notre vie à nous. On dit Saint-Esprit là-dessus, là, je gère. Le reste, je te laisse. Mais non, être chrétien, c'est laisser 100% de sa vie entre les mains de Dieu. Et on parle d'une nouvelle création. Ce que Nicodème n'avait pas compris. Ça veut dire qu'on peut être un grand docteur de la loi. On peut être un grand pasteur. On peut être un éminent docteur en théologie sans même comprendre ce que c'est que la base de la vie chrétienne et son point de départ, la nouvelle naissance en Christ Jésus par le Saint-Esprit. Mais quelle grâce de se dire « Ah, mais donc je n'ai pas besoin de faire d'efforts. Je n'ai pas besoin de changer par moi-même. Je n'ai pas besoin de regarder sans cesse dans mon rétroviseur et dans le passé. » Parce que Satan est fort pour nous mettre des boulets derrière nous, nous empêcher d'avancer avec des manques de pardon, avec peut-être des péchés non confessés, avec peut-être une vie qui ne correspondait pas à la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit, laisse tomber tout ça, tu es devenu une nouvelle créature. Ne cherche pas à t'améliorer par toi-même. Ne cherche pas à progresser par tes propres efforts. Si tu le fais, tu auras l'impression. C'est comme le Canada Dry, ça ressemble à de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. On aura l'impression de vivre par l'esprit, alors qu'en fait, on veut tout contrôler par notre chair, et au bout d'un moment, on ne pourra faire que tomber, et retomber, et sombrer, et se décourager. Avec des chrétiens qui deviennent amers, des chrétiens qui se replient sur eux-mêmes, et qui n'osent même plus vivre la communion fraternelle. Les choses anciennes sont passées. Le Saint-Esprit te convainc que tout ce que tu as fait avant dans ta vie est oublié. Ça a été lavé une fois pour toutes à la croix par le sang de Jésus. Toutes choses sont devenues nouvelles. Mais si toutes choses sont devenues nouvelles, est-ce qu'on a compris ça dans nos vies? Est-ce qu'on marche en nouveauté de vie? Ça, c'est du langage très chrétien. Mais concrètement, est-ce qu'on a compris ce que c'était que d'être une nouvelle création, une nouvelle créature, et de marcher en nouveauté de vie? Non pas par nous, par nos forces, par nos capacités, mais par la puissance d'en haut, par la puissance du Saint-Esprit en nous. Et ce Saint-Esprit, si on l'étouffe, si jamais on n'y croit pas, si jamais on le minimise, si jamais on a peur des excès, parce qu'il y a toujours eu des excès avec le Saint-Esprit, ça date pas d'aujourd'hui. Mais c'est pas parce qu'il y a eu des excès qu'il n'existe pas. Et faites attention, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit, on peut l'attrister. Si on l'attriste, ben on ne risque plus d'entendre sa voix. Et alors, on peut vivre une vie chrétienne charnelle. On est persuadé qu'on est dans la voie de Dieu. Mais en fait, on n'entend pas Dieu, on s'entend nous-mêmes. On n'a pas une parole de Dieu qui est révélée par le Saint-Esprit dans nos vies. On a une parole de Dieu qui est un livre d'histoire. Une parole de Dieu qui est un livre théologique, qu'on apprend, qu'on connaît par cœur. On peut en citer des passages. Mais pas de vie transformée, pas de vie changée, pas de vie qui manifeste l'amour de Jésus-Christ. Parce que la nature même de Dieu, c'est quoi? C'est l'amour. S'il n'y a pas d'amour, tout le reste n'est rien. Corinthiens 13, on est une cymbale retentissante. Combien c'est important de nous poser la question. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, j'étais venu et j'avais partagé avec vous 1 Thessaloniciens 5, verset 23. On peut le lire, hein, c'est un tout petit verset. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Que tout votre être, d'abord que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais juste reprendre une petite image que j'avais reprise à l'époque. Tout le monde n'était pas là. Viens ma chérie. Coraline, tu viens ? Et puis, il y a encore une petite fille qui est là, ou un petit garçon? Oui, viens ma chérie. Venez les trois. Souvent, nous les chrétiens, on mène une vie charnelle. Il faut dire la vérité, hein. Moi comme vous. Et c'est dur de crucifier le vieil homme. Il a tendance à vouloir revenir. Mais la Bible nous dit, nous sommes un être tridimensionnel, comme Dieu. Nous sommes, on va prendre la plus grande, c'est toi, non? Viens ici. Le corps, l'âme et l'esprit. Mettez-vous la main sur l'épaule. Nous sommes un. Ils sont unis. Ils sont ensemble, mais ils sont trois. Et bien souvent, quand on est trois, je ne sais pas si vous avez trois enfants, mais nous on en a trois, souvent c'est souvent deux contre un. Il y a souvent des unions qui se font l'un contre l'autre. Et toute la vie chrétienne, elle se résume dans cette image. Quand on est un chrétien charnel, c'est en fait le corps et l'âme qui fonctionnent ensemble. Ils marchent ensemble. L'esprit ne veut pas aller, ne veut pas suivre, mais il n'a pas le choix, il en fait partie. L'esprit n'est pas souillé, il est régénéré par le Saint-Esprit du Dieu vivant au moment de la conversion. Il est parfait, il souffre de voir ce que font le corps et l'âme. Ils sont en souffrance, ils ne comprennent pas, ils ne comprennent pas. Mais au fur et à mesure que le temps passe, si on ne réagit pas, si on ne revient pas à la croix de Jésus-Christ, si on ne cherche pas le sang salvateur qui nous régénère par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? L'esprit va diminuer, diminuer. C'est comme un muscle, on ne le fait pas travailler. On ne prend pas conscience qu'il est là. Il diminue, il diminue, il diminue. Et au bout d'un moment, on l'entend plus. Et là, vous avez une jolie image d'un chrétien charnel. Il sort le samedi soir. On en voit beaucoup en Burkina. Allez, on va les maquiser. Les maquis, c'est les boîtes de nuit. On va aller danser. L'âme, c'est le siège des émotions, des envies, de la volonté. Et l'âme, elle va souffrir au corps. Hey, t'as vu, un samedi soir, on peut y aller, il y a les copains, etc. Le corps, il est neutre. Qu'est-ce qu'il fait? Il suit, il a envie. Il sait que ça va lui faire du bien pour un temps. L'esprit essaye de souffler. Hey, est-ce que Jésus serait parti en boîte de nuit? Il est tellement petit, là, on ne l'entend pas, inaudible. Elle part, elle va en boîte de nuit. Et vous vous suivez, vous êtes un, vous ne pouvez pas vous séparer. Et on va en boîte de nuit, on fait danser Jésus. On va danser Jésus, on va commencer à prendre la drogue, on commence à boire et on commence à faire vivre tout ce que le Saint-Esprit n'aime pas. On finit par l'attrister et petit à petit, disparaît, on l'entend plus. Il devient inaudible. C'est pas que l'Esprit n'est plus là, mais vous l'avez tellement torturé, tellement étouffé qu'il peut plus se faire entendre. Et ça, c'est la vie de nombreux chrétiens charnels sur tous les continents. On vient tous les dimanches, on est des piliers d'église, mais nos vies ne changent pas. On n'a aucun témoignage à donner qui soit crédible. Et pour donner un témoignage, si ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous utilise pour faire quelque chose d'exceptionnel, votre témoignage, c'est la chair. Uniquement la chair, et on se glorifie soi-même et pas Dieu. Maintenant, là, Paul, il avait compris ça au début. Il dit, mais bon sang, ce corps-là, mais pourquoi c'est toujours ma chair et mon âme qui font lien ensemble? Seigneur, libère-moi de ce corps de chair. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Heureusement qu'il a eu la révélation en Romains où il a compris que celui qui doit être devant, c'est l'Esprit. L'Esprit. Cet Esprit, il faut le faire grandir. Il faut le chérir. Il faut avoir une relation avec lui. Il faut l'aimer. Il faut être à son écoute. Et puis, elle va faire union avec l'âme. L'Esprit va influencer l'âme. J'ai envie de me mettre en colère. Ce frère est trop dur contre moi. L'Esprit lui dit, aime ton prochain comme toi-même. J'ai envie d'aller en boîte de nuit aujourd'hui. L'Esprit va lui dire, hé, mon type, doucement, est-ce que Jésus, là, franchement, entre nous, est-ce qu'il aurait été en boîte de nuit, danser, chanter? Il aurait peut-être été à la sortie pour récupérer les gens, les aider, les encourager, leur apporter la parole, mais il n'allait pas partir faire ça. Et quand c'est comme ça, notre esprit maintenant, c'est lui qui conduit la vie du chrétien. Et ça ne veut pas dire qu'on est un chrétien parfait. On est sur terre encore. Mais à chaque fois que l'être va pécher, l'esprit ne va plus tolérer ce péché et tout de suite on va réagir. Éviter que la situation s'envenime. Combien de fois la Bible, même pas la Bible, vous-même comme moi, on a laissé une situation non réglée et on s'est endormi avec cette situation non réglée. Et la Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. L'esprit nous dit, règle ça avec ton frère, avec ta sœur. Règle ça avec ta femme. Ne laisse pas traîner ça avec tes enfants. Non, on ne veut pas régler, on continue à avancer. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une porte dans notre cœur pour être attaqué par Satan. Et c'est sûr et certain que Satan va rentrer par cette porte et va venir commencer à nous troubler, à mettre l'amertume, à mettre la colère et beaucoup de jugements pour nos frères, nos sœurs, nos maris, nos femmes, nos collègues de travail, les gens de nos familles qui ne nous comprennent pas. Donc vous voyez, quand on est un chrétien équilibré, ben, c'est pas exagéré de mettre le Saint-Esprit devant. Mais pas le Saint-Esprit en disant, vas-y, et puis je ne fais rien derrière. Après, le siège de la volonté et le corps doivent le nourrir. On nourrit son corps tous les jours. Est-ce qu'on nourrit son esprit? Et maintenant, si le Saint-Esprit marche, aller au culte le dimanche, se lever tôt, mais c'est pas un problème. Et puis on se lève pas à 10 heures pour la 10 heures et demie, on se lève même à 8 heures. On a à cœur de préparer son cœur, de prier, de recommander la personne qui apporte le message, la personne qui préside le culte, que le groupe de louanges, Dieu guide les chants, pour qu'il y ait une unité de l'esprit dans ce culte et que chacun puisse ressortir encouragé, nourri et vraiment nourri pour la semaine. Parce que souvent, on vient au culte le dimanche. Qu'est-ce qu'on fait de ce culte dans la semaine? On ne vient pas simplement pour écouter un beau message, on sort, waouh, le pasteur a bien parlé ou le frère a bien prêché. Il a dit quoi? J'ai oublié, mais c'était vraiment bien. Ça m'a touché, en tout cas. Et puis le reste de la semaine, hop, la semence de la parole a été enlevée. La semaine, il faut prier, méditer les passages, revenir sur le thème. Et c'est ça qui doit transformer nos vies, nous faire grandir. Et l'Esprit qui est en nous, uni à l'Esprit de Jésus, il passe par cette nourriture spirituelle quotidienne et par la prière. Et c'est uniquement comme ça qu'on peut devenir des chrétiens spirituels qui ne cherchons pas notre propre volonté, qui ne cherchons pas notre vérité. Dieu s'en fout qu'on ait raison ou pas. Ce n'est pas son problème. Ce qu'il nous demande, est-ce que tu fais, est-ce que tu vis comme moi je te demande de vivre? Est-ce que tu mets en application ma parole? Ou bien il y a des passages qui te gênent, tu passes par-dessus, tu vas ailleurs. La parole, elle est la vérité. Hier, aujourd'hui, éternellement, elle ne varie pas, elle ne change pas. Merci. Vous pouvez y aller, toi aussi. Toi, t'en as tous les jours, c'est bon. Plein même. Donc vous voyez, c'est simplement ce petit rappel, nous rappeler que voilà, on est des êtres spirituels, mais on l'oublie. Et je vous assure que quand on revient en Europe, il y a tellement de mauvaises nouvelles. On a un tel accès aux médias, on a un tel souci du quotidien, du travail, de la famille, les courses. Tout est fait pour nous endormir spirituellement, pour trouver des raisons et des justifications pour ne pas lire la parole de Dieu, pour ne pas visiter nos frères et nos sœurs. On a mille bonnes raisons. Mais quand on verra Jésus face à face, est-ce qu'elles vont tenir ces raisons? Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est pas simple. Il faut qu'on pense à ça, qu'on remette en cause notre manière de vivre, remettre en ordre nos priorités dans nos vies. Jésus est Dieu. Enfin, Jésus, c'est pas la troisième roue du carrosse. C'est quand j'y pense. C'est la priorité dans nos vies. La parole de Dieu, c'est pas ouais, ben le dimanche je l'ouvre. Et encore, si je faisais un test, qui a sa Bible aujourd'hui? Ah, je suis pas sûr que tout le monde aurait sa Bible. Et pourtant, Dieu sait qu'elle est importante. La révélation de la parole est claire, dit Psaume 139. Et dans Colossiens 1, verset 13, on va s'encourager, parce qu'il ne faut pas croire que ça dépend que de vous. Hein. Il y a une part de volonté, et le reste, ce n'est pas vous qui allez le faire. Quand on comprend cette parole de Colossiens 1, verset 13, Jésus nous a délivrés du pouvoir des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption et le pardon des péchés. Ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai des efforts à faire pour rejoindre ce royaume-là. Non, au moment de ta conversion, Dieu t'a transféré dans le royaume de son amour. Dans le royaume de son amour, tu n'as pas d'efforts à faire. Oui, mais je ne le vois pas. Voilà les chrétiens aujourd'hui. On veut voir, on veut ressentir les choses. La foi, c'est croire ce que la parole nous dit. Tu es transféré dans le royaume de l'amour de Dieu. Mais gloire à Dieu, remercie-le, crois à ça et demande-toi maintenant, mais ah, on m'a transféré dans un royaume. Si on m'a transféré dans un royaume, et c'est un royaume d'amour, ça veut dire que j'ai donc une nouvelle identité. Je change de nationalité. Il n'y a pas de, bon, on vit la foi en Europe, on vit la foi en Afrique de manière différente, on vit la foi de manière différente en Asie, et puis, il y aurait 36 nationalités. Non, il y a un seul royaume. Que personne ne vienne le diviser avec des fausses paroles de sagesse. C'est le royaume de Dieu. Il y en a un seul. Et nous sommes tous transférés là-bas. Ça veut dire que nous adoptons une nouvelle nationalité. Nous sommes citoyens du royaume des cieux. Aujourd'hui, si on me demande de quelle est ta nationalité, je dis toujours citoyen du royaume des cieux. Et puis, en troisième roue du carrosse, français, suisse, burkinabé, c'est déjà beaucoup, mais citoyen du royaume des cieux, c'est le plus important, c'est celle duquel je suis le plus fier, parce que j'ai rien fait pour le mériter. J'ai simplement accepté et cru que Jésus m'avait lavé, m'avait purifié par son sang à la croix, sur le mont Golgotha, et m'avait transféré dans le royaume de son amour. Et ce royaume, il faut qu'on apprenne à le connaître, il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, ce royaume. Un royaume, c'est un État. Quand vous êtes en France, vous obéissez à des lois, vous obéissez à des principes. C'est la même chose dans le royaume de Dieu. Il y a des lois, il y a des principes, mais qui sont plus charnels et qui sont spirituels. Il faut apprendre à les découvrir dans la parole de Dieu. Ce sont des perles, des richesses, des trésors. Nos ancêtres, au moment des grands réveils, 18e, 16e, ils ont passé leur vie à faire ça, à trouver ces perles, mais à se dire, mais on avait ça sous les yeux, on ne l'a pas vu. Mais mettons-le en application. Et ça doit changer de ma vie. Ça doit me faire marcher, ça doit faire évoluer, et ça touche les gens. Mais si on veut présenter aux gens un christianisme raisonnable, un christianisme rationnel, un christianisme où on a enfermé le Saint-Esprit dans un beau cadre, personne ne viendra dans nos rassemblements. On ne touchera pas la vie des gens dehors. On doit laisser au Saint-Esprit la liberté de nous utiliser et nous faire comprendre que nous devons adopter une nouvelle mentalité. Non pas la mentalité de ce monde, non pas la mentalité des hommes, parce que ce monde est dirigé par Satan, mais la mentalité du royaume de Dieu. Et parfois, ça fait mal dans nos têtes, ça fait mal dans nos cœurs, parce que ce sont des valeurs qui s'opposent, ce sont des valeurs qui se confrontent. Et c'est difficile, ça fait mal parfois de comprendre qu'il vaut mieux adopter la valeur du royaume de Dieu, même si je souffre, parce que j'avais raison, parce que j'étais sûr que c'était comme ça. Dieu te dit, ne cherche pas ta raison, cherche ma raison, cherche ma volonté, cherche à me plaire. Et ce nouveau système de pensée et de valeur, il est basé sur le Saint-Esprit. On peut lire la Bible, on l'a tous, mais si on néglige le Saint-Esprit, on peut la lire pendant 20 ans. Vous serez un bon professeur de théologie à l'université, protestante par exemple, et il y a des gens qui sont très réveillés là-bas, mais au final, votre vie, il n'y a rien. Vous auriez pu faire études de droit, c'était la même chose. Vous êtes une tête bien pleine, mais pas renouvelée dans vos pensées. Pardon. Et donc à partir du moment où on a compris qu'on est dans un nouveau royaume, quelqu'un qui immigre, il essaie de comprendre comment ça se passe. Il essaie de s'intégrer. Il essaie de s'adapter, de se soumettre aux lois et aux principes. Et nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on cherche à se soumettre aux lois de Dieu, à connaître ses principes, à essayer de les mettre en application dans nos vies? Pourquoi? Parce que c'est le seul moyen, en méditant quotidiennement la parole de Dieu à la lumière du Saint-Esprit, de connaître ses lois et ses principes, et de connaître la croissance et la maturité spirituelle. Parce que les chrétiens qu'on a montré tout à l'heure, ben, le chrétien charnel, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'un bébé. On peut avoir 70 ans, 80 ans, avoir été toute sa vie à l'église, et aux yeux de Dieu, vous n'êtes qu'un chrétien qui est un bébé spirituel. Vous n'avez jamais vécu la foi de Dieu. Vous ne lui avez jamais fait confiance. Vous n'avez jamais abandonné les rênes. Vous voulez tout contrôler, tout maîtriser dans vos vies. Et Dieu sait si c'est facile à faire. Moi, je l'ai fait pendant combien d'années avant de comprendre. C'est dur. C'est pour ça que souvent j'envie les chrétiens qui se convertissent. Parce qu'ils n'ont pas tout cet arrière-plan que nous, on a, historique, dénominationnel, qui nous empêche de rentrer avec tout le zèle et le feu de l'amour, de l'amour de Dieu, dans la vie chrétienne, parce que c'est tout frais, tout neuf, et on a faim et on a soif. Et on a besoin de cette faim et de cette soif de Dieu pour avancer et pour croître. Parce qu'il y a un but pour Christ. Tant qu'on est sur terre, c'est pas de vivre côte à côte, en se supportant péniblement les uns les autres, et en venant le dimanche faire le culte, et puis on se dit que voilà, ça y est, j'ai rempli mon devoir de la semaine, je peux rendre ma copie, c'est sûr que ça sera une bonne note. C'est pas comme ça. Dieu nous dit dans la vie chrétienne, où tu avances avec moi, où tu progresses, où tu te lèves et tu fais pas après pas, même si ça coûte, où tu régresses. Et en Afrique, ils ont une expression que j'aime pas trop, ils parlent des chrétiens rétrogrades. Les chrétiens qui étaient tout pleins de feu et de zèle, puis au bout d'un moment, ils se sont retirés. Ne soyons pas des chrétiens rétrogrades. Soyons des chrétiens qui ont en cœur de connaître et de progresser. Imaginez qu'Emmanuel, il a... T'as quel âge aujourd'hui? Ça se dit pas, j'ai pas demandé Rebecca. Mais... 36. Pardon. Non, mais il fait 36, c'est pour ça. Imaginez qu'il a 46 ans et aujourd'hui, il se comporte comme Elia. Vous allez dire, mais il y a... Mais tellement peu. Mauvais exemple, il aime tellement les enfants. Mais tout le monde dirait, mais c'est anormal. C'est pas possible. Comment quelqu'un qui arrive à 46 ans, qui a mangé, qui a cru le corps à 46 ans, mais il se comporte comme un bébé de 5 ans. Pas 3 ans, elle est pas là. Hein. Donc, ça se fait pas. Et pourtant, nous, on est tout fiers dans nos églises et dans nos rassemblements d'avoir des gens qui ont peut-être 80 ans, mais 3 ans d'âge spirituel, qu'on trouve ça normal. Mais c'est choquant. Et Dieu pleure pour ça. Et il n'y a pas d'âge pour se tromper, demander pardon et revenir au pied de la croix. Revenir au pied de la croix. Parce que Dieu veut faire de nous des pères et des mères. Il nous a créés physiquement pour être père et mère. Et par analogie, souvent Jésus prenait des images du quotidien que les gens comprenaient bien pour les transférer dans des images spirituelles qui allaient les aider à comprendre. Et c'est la même chose. La vie chrétienne est une marche de croissance et de maturité spirituelle. C'est une vie de progression et de progrès. Pas par nos forces, pas par notre intelligence. On en a une, faut pas la négliger. Mais c'est pas elle qui doit diriger notre vie chrétienne. C'est l'intelligence de Christ Jésus, c'est sa puissance. Combien de fois Paul a dit, quand je ne prêche pas par moi-même, par mes forces, mais par la puissance du Saint-Esprit. Il y a une puissance qui est à votre disposition, qui est à la mienne. Est-ce qu'on le comprend? Est-ce qu'on la saisit? Et quand on l'a saisi, la marche chrétienne change. Puisqu'on a compris que tout d'un coup, ah, mais le paradis, C'est pas seulement là-haut que je dois œuvrer. On a compris que le royaume de Dieu, il est déjà sur terre, à travers vous, chacun d'entre vous, à travers moi. Nous le transportons au quotidien. Et Dieu ne demande pas de rester statique, il demande de nous lever et de manifester ce royaume dans notre vie quotidienne, de montrer Jésus-Christ dans nos relations, d'abord interpersonnelles dans l'Église, puis dans nos familles, puis dans nos cercles du travail, parce que son but, c'est pas simplement venir nous chercher, on n'a jamais rien fait de notre vie, j'ai une vie pieuse, Seigneur, tu me vois, non? Je n'ai embêté personne, je n'ai été provoqué personne, je me suis disputé avec personne. Dieu te dit, mais c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est des combats. La vie chrétienne, c'est avancer, c'est gagner du terrain sur cette terre pour lui. C'est ça la croissance spirituelle. Et on a le but de manifester, d'étendre le royaume sur terre. Et Ézéchiel, j'aime beaucoup cette image d'Ézéchiel. Ézéchiel 47. Je vais pas le lire, mais vous le lirez à la maison. Ézéchiel 47, versets 3 à 5. Ézéchiel est transporté devant le trône de Dieu. Et il voit cette rivière, cette source de vie qui coule. Et il dit, non, l'Éternel m'a pris. Il m'a mis d'abord, j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Puis après, j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Puis jusqu'aux reins. Et puis après, on ne pouvait plus marcher. On nageait, on était environné de la gloire de Dieu. Cette image, elle est parlante dans nos vies. La croissance spirituelle, c'est comme la croissance physique. Il y a des étapes. Il y a des saisons de la vie. On a le bébé, on a l'enfant, on a le père, on a le fils, et on a le père. C'est la même chose avec Dieu et avec le Saint-Esprit. Ce que nous montre Ézéchiel, c'est la vie de l'Esprit. Ce fleuve qui coule, c'est le fleuve de vie. Quand vous lisez, c'est lui qui donne la vie à tout ce qui touche. C'est lui qui nous a donné la vie, le Saint-Esprit. Il nous a racheté des vaines manières de faire de nos pères. Mais ce Saint-Esprit qui coule, dans nos églises, on a quatre sortes de chrétiens. On a les chrétiens qui ont jusqu'aux chevilles, se sont convertis. D'accord, le Saint-Esprit m'a lavé, il m'a amené à Christ, à la repentance, c'est bon. Puis leur vie, ben, elle reste là. Ils connaissent pas la plénitude du Saint-Esprit dans leur vie, qui change complètement votre manière de faire, ma manière de prêcher. Si vous m'avez connu il y a 15 ans en arrière, je prêche plus de la même manière. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Il y a des chrétiens qui se disent, allez, je vais faire un pas supplémentaire avec Christ. Et puis je vais aller jusqu'aux genoux. Et puis il y en a qui se disent, c'est déjà pas mal. Et puis ils ont peur d'aller plus loin. N'ayez pas peur. Faites comme Ézéchiel. Laissez-vous transporter dans toutes les étapes de votre vie par le Saint-Esprit pour aller jusqu'à nager dans la plénitude de Dieu. Quand on nage dans la présence de Dieu, quand on nage dans la plénitude du Saint-Esprit, c'est facile d'agir avec nos frères, avec nos sœurs. C'est facile d'oublier nos propres intérêts, notre propre raison. C'est facile de pardonner. C'est facile d'aimer. C'est facile de témoigner. C'est facile de vivre la vie chrétienne spirituelle. Et cette image d'Ézéchiel, elle est belle. Elle m'a toujours touché. Et moi, je prie que chacun d'entre vous, vous fassiez le bilan. Où j'en suis dans ma marche avec le Saint-Esprit? Où j'en suis dans ma marche avec Dieu? Est-ce que j'en suis aux chevilles? Aux genoux? Aux reins? Où est-ce que je suis maintenant dans la plénitude du Saint-Esprit? Et c'est ce que la parole veut pour nous. Soyez remplis de la plénitude du Saint-Esprit. Et regardez Pierre. Pierre qui était sincère avec Jésus, mais qui l'a trahi, qui a fait que des bêtises, parce qu'il était colérique, il était coléreux, il était dirigé par son âme. C'est uniquement quand il a eu l'attouchement du Saint-Esprit que sa vie a totalement changé. Et que Dieu l'a pu l'utiliser avec puissance pour prêcher sa parole et changer la donne là où il était. 3000 personnes converties en un jour. Je ne sais pas si vous imaginez. Aujourd'hui, on fait des grandes séances d'évangélisation, on a la télévision, Internet. Est-ce qu'on arrive à avoir des gens qui convertissent, que Dieu utilise pour convertir 3000 personnes en une journée? C'est rare, hein? Ils avaient compris la différence que faisait le Saint-Esprit dans la vie du chrétien. Et comment croître spirituellement? C'est facile de parler de ça. Vous allez me dire, ouais, mais c'est Ézéchiel. Ouais, c'est Pierre. Ouais, mais c'est toutes les personnes de la Bible, en fait. Pourquoi est-ce que vous croyez que la Bible, on nous donne les exemples des grands prophètes? C'est simplement pour faire un livre d'histoire à raconter aux enfants? Non, c'est pour étudier leur vie, pour comprendre ce qu'a fait leur force, leur faiblesse, à partir de quand leur vie a changé. Il y a des secrets dans la vie de tous nos grands hommes de Dieu. Si je prends l'exemple, on peut en prendre quelques-uns rapidement, de Samuel. Mais Samuel, qu'est-ce qui a fait la force de son ministère? À vous de parler. C'est quoi qui a fait la force de son ministère? l'écoute de Dieu. Où est-ce qu'il était, Samuel? Alors que Élie dormait bien loin de l'Arche d'Alliance dans le temple, à Silo, il allait où, Samuel? Il allait se coucher au pied de l'Arche d'Alliance, au pied du Seigneur. Il ne connaissait pas, mais il avait tellement entendu de choses sur Dieu, il voulait connaître, il voulait avoir une relation, un cœur à cœur avec lui. Et c'est parce que fidèlement, chaque nuit, il allait se coucher au pied du Seigneur, qu'un jour le Seigneur lui a parlé. Est-ce que vous êtes déjà couché au pied du Seigneur? Implorer sa grâce, son pardon, lui demander d'entendre sa voix. Ça peut être physiquement, audiblement, ça peut arriver, mais la plupart du temps, c'est des pensées qui font monter dans votre cœur, quand vous êtes en communion et en relation avec lui. Si on prend l'exemple de Josué, j'aime aussi Josué, lui c'est un grand guerrier, un combattant, mais à l'époque de Moïse, on n'en parlait quasiment jamais de Josué. Il n'était pas devant. Il était où? Qu'est-ce qui a fait sa force à lui, tiens? Regardez, Moïse était celui qui était mis devant. Josué a compris qu'il était serviteur de Moïse. Il voulait apprendre de cet homme. Il avait choisi un mentor. Qui est votre mentor dans votre vie chrétienne? Quelle est la personne qui est votre référence au niveau chrétien? Avec qui vous pouvez poser des questions, demander conseil, compter sur ses prières? Femme pour femme, homme pour homme, bien évidemment. Mais est-ce qu'on a un mentor dans notre vie? Quelqu'un qui est au-dessus de nous, qui peut nous guider, nous aider, on est sûr et on a une confiance aveugle, on peut tout partager avec lui. C'est important. Mais regardez ce Josué. Josué, à chaque fois que Moïse parlait avec Dieu, il parlait où? Dans la tente d'assignation. Qui était avec lui dans la tente? Josué. Et donc, Josué ne parlait pas avec Dieu, mais il voyait et il entendait Moïse échanger, discuter avec Dieu comme avec un ami. Et dès que Moïse sortait, son but c'était quoi faire? C'était d'aller enseigner le peuple, transmettre la parole de Dieu au peuple d'Israël. Et Dieu sait que c'était difficile pour Moïse. Dieu sait que le peuple faisait sa volonté. Lui aussi il aurait pu ne pas pardonner au peuple et dire « t'as raison Seigneur, crame-les ». Envoler tous en enfer et utilise ma postérité. Lui, lui a dit je prends ta postérité et j'en ferai une génération bénie. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit Seigneur, pardonne-leur. Ils ne savent pas. J'intercède. Je ploie le genou. Mais pendant que Moïse sort pour aller parler au peuple, Josué fait quoi? Josué reste dans la présence de Dieu. Il ne sort pas de la tente. Il y a encore l'onction de Dieu qui plane. Et il reste dans la présence de Dieu. Il apprend année après année à vivre la communion avec Dieu par le Saint-Esprit. Année après année, il est à l'écoute de la parole de Dieu. Il se forme. Si vous prenez David, c'est la même chose. David, personne n'a cru en lui. Humainement parlant, c'était le dernier des enfants de son père. C'était un enfant illégitime. Il le dit dans le psaume 51. J'étais conçu dans le péché. Mais tout le monde l'a rejeté. C'est pourtant lui que Dieu a choisi. Et Dieu a parlé de lui en disant, c'est l'homme selon mon cœur. Que ce matin, le Saint-Esprit mette dans le cœur de chacun d'entre vous la volonté d'être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Moi, en tout cas, c'est ça qui dirige ma vie aujourd'hui. Je veux être un homme selon le cœur de Dieu. Je veux accomplir sa volonté là où il m'a placé. Oh, il m'a mis en Afrique. Mais il n'y a pas besoin d'aller en Afrique pour faire la volonté de Dieu. Il vous a mis à Prefsaint, c'est qu'il y a un rôle à jouer. Quel que soit votre âge, quel que soit votre niveau spirituel ou intellectuel, il vous a mis là parce qu'il y a un rôle précis pour chacun d'entre vous. On peut l'accepter, on peut le refuser. On peut dire c'est trop dur, il y a trop de jugement. C'est vrai. Mais c'est pas parce que tu es dans une église que tout le monde doit être parfait. Par contre, toi, tu dois passer par-dessus et tu dois manifester l'amour de Jésus. Et prier pour ces personnes au lieu de critiquer. Te mettre à genoux. Intercéder. C'est Dieu qui change les cœurs, pas tes paroles. J'ai fait tellement de dégâts en ouvrant ma bouche parfois. Tu crois faire du bien et puis tu parles. Et à la fin que tu as parlé, tu entends une voix qui te dit « Bravo, tu l'as bien jugé, tu l'as bien enterré ». Puis la réaction qui revient en face, elle se fait pas attendre. Quand tu juges, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui te revient en pleine figure? Ben, le jugement aussi. Et on détruit au lieu de construire. Alors que quand on regarde la croix, on a une magnifique image de la vie chrétienne. Il faut d'abord la réconciliation entre Dieu et nous. Et une fois qu'on a vécu la réconciliation entre Dieu et nous, on la vit les uns avec les autres. Et je ne sais pas si vous connaissez Oderse. Dans un de ses bouquins, j'aime beaucoup, il a un humour ravageur, mais tellement vrai sur nous les chrétiens. Il y a cette image de la croix avec un grand précipice. Et puis il y a un chrétien qui est d'un côté, et la croix tombe dans le précipice pour éviter qu'il tombe, et il passe d'un côté à l'autre, vers son frère. Si on juge, la croix ne sert plus à rien. Si on juge, la partie transversale, elle n'est plus là pour aller voir mon frère avec ma sœur. Et ça coupe tout, ça coupe les ponts. Et c'est dur des fois, c'est compliqué de demander pardon. C'est compliqué de relier, de faire une relation avec quelqu'un avec qui on ne se parle pas. Moi, mon papa n'a pas vu sa mère 8 ans avant sa mort. Alors qu'il passait tous les jours dans le même village. J'ai jamais compris ça. Comment on peut s'endurcir à ce point-là? Et tous les dimanches, il est à l'église. Et il est persuadé qu'il n'y aura pas de jugement, qu'il n'y a pas de problème, Dieu pardonne. De la manière dont tu pardonneras, il te sera pardonné. C'est la même chose. Et si on prend ensuite notre David, il s'est formé derrière un troupeau, un gamin. Dieu l'a préparé là-bas. Quand il dit qu'il a fermé la bouche des lions, c'est pas du virtuel, c'est qu'il l'a fait. Mais il l'a fait lui-même? Bien sûr que non. C'est Dieu qui l'a entouré de ses anges et il a vécu la puissance du Saint-Esprit dans sa vie. Il a vécu l'intervention divine dans sa vie. Et nous, on est souvent frustrés parce qu'on n'a jamais vécu d'intervention divine. Parce qu'on n'a jamais cru à ça. On n'a jamais eu la foi pour déplacer nos montagnes. Jésus, à chaque fois qu'il a fait un miracle et qu'il parlait aux gens, il faisait pas grand-chose. Il leur disait à la fin qu'il te soit fait selon ta. Souvent, je provoque mes élèves, je leur dis ils ont une foi de criquet. Donc une foi de criquet, c'est pour dire qu'ils ont une petite foi. Donc c'est sûr que si tu pries pour quelque chose et tu crois pas que ça va arriver, il se passera rien. Absolument rien. Et c'est normal. Dieu va pas au-delà de notre foi. Et Jésus lui-même, dans le désert, quand il était dans le désert, comment est-ce qu'il a cru spirituellement? C'est pas lui qui a demandé d'aller dans le désert. Hein, c'est pas vous qui devez demander à Dieu d'aller là où c'est bon et facile. C'est le Saint-Esprit qui l'a emmené dans le désert. Est-ce que le Saint-Esprit vous a déjà emmené dans votre désert? Certains oui, d'autres non, d'autres ont peur. Parce que dans le désert, il n'y a pas de bruit. Dans le désert, il n'y a pas de pollution auditive. Il n'y a rien qui peut capter notre attention. On est focalisé sur l'essentiel, la parole de Dieu. Et pendant 40 jours, vous croyez que Jésus, il a fait quoi? Il a joué aux cartes? Pendant 40 jours, Jésus était en relation, en communion, journellement avec son Dieu, avec son Père. Il se parlait. Et en fait, tout le ministère de Jésus, c'est quoi? La mise en application de ce qu'il a appris pendant ces 40 jours. Uniquement. Et par la puissance du Saint-Esprit qui était en lui. Avant, Jésus n'a pas fait de miracle. Il n'a fait aucun miracle avant qu'il soit baptisé et que le Saint-Esprit le touche. Il y a eu un changement, on l'a vu. Est-ce qu'il y a un changement dans nos vies? Est-ce que visiblement, on voit un changement de manière de vivre notre foi? Est-ce qu'on la vit toujours dans la foi de la tradition? On se laisse bousculer par le Saint-Esprit. On se laisse secouer avec sagesse, avec discernement. Mais on se laisse remettre en question parfois. C'est pas facile. Et Jésus qui a été tenté dans le désert, ben c'est clair, il s'est nourri de la parole de Dieu, il parlait face à face. Et vous, vous vous nourrissez de la parole de Dieu? Est-ce que vous dites à Dieu chaque matin, enseigne-moi par ta parole? Est-ce que vous utilisez les passages que vous avez reçus pour prier et remettre à Dieu votre journée? Pas en basant vos prières sur des prières de commerçants. Jésus, donne-moi ça. Jésus, guéris-moi. Jésus, fais-moi ça. Jésus a déjà tout accompli à la croix. Tu veux qu'il fasse quoi encore pour toi? Il fera rien. Tout a déjà été accompli. Mais mets en application maintenant la parole de Dieu dans ta foi et tu vas comprendre quels sont les mécanismes pour manifester cette parole dans ta vie, pour manifester ces miracles dans ta vie. Ils ne viendront pas de toi, ils viendront de Dieu. Mais tu dois les activer par ta foi, par ta connaissance de la parole et par ta proclamation. C'est important. C'est important. Et si on regarde, ben Jésus, quand il était tenté, à chaque fois, il n'a pas répondu des paroles personnelles. Jamais. Jésus n'a jamais eu une parole personnelle. La seule qu'il a eue, « Père, si cette coupe peut passer loin de moi », c'est la seule parole personnelle qu'il a eue. Tout le reste, c'était la parole de la Bible, de la Torah, de la parole de Dieu qu'il connaissait. Et encore, il a dit « Mais ta volonté, pas la mienne ». Il était jusqu'au bout de l'obéissance à la croix. Et vous voyez comment il a résisté à Satan? Il n'a pas résisté en manifestant, il n'a pas résisté en faisant des spots d'opposition, il n'a pas vérifié en gonflant les muscles, il a résisté en ployant ses genoux et en utilisant la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on répond à une situation? On répond avec la chair ou par la parole de Dieu? Pas une parole qui détruit, hein. La parole de Dieu doit toujours construire la vie de quelqu'un. Doit toujours l'aider à progresser, jamais l'enterrer, jamais l'enfoncer. Très important. Et si vous regardez ces 4 exemples, on pourrait prendre encore Samuel, mais Samuel, Josué, David, Jésus lui-même. Est-ce que c'était des gens qu'on avait envie d'élever au début? Pas du tout. Ils se sont tous caractérisés par des mêmes traits de caractère, qui sont les traits de caractère qu'on doit retrouver pour le chrétien du royaume des cieux. Pour le chrétien qui veut vivre sa nouvelle nationalité, qui veut vivre dans l'obéissance à son nouveau roi, Jésus-Christ. À chaque fois, vous trouvez l'humilité. Ce ne sont jamais des personnes qui se sont crues supérieures aux autres. Ouais, moi je sais faire, donc je t'écrase. Et j'ai tendance à faire ça de temps en temps. Mais il faut apprendre des fois à dire, ouais, peut-être que tu ne sais pas faire, mais vas-y, je te fais confiance. Je prie pour toi, je te pousse. Et puis si tu te trompes, c'est pas grave. Je me suis trompé avant toi. Dieu ne nous demande pas d'être parfait, il nous demande de faire avec lui, d'être co-ouvrier avec Christ. Ce sont des gens qui ont été persévérants, ils ne se sont pas laissés décourager. Ils ont été persévérants dans la prière. Ce sont des gens qui avaient une relation. Notre Dieu est un Dieu de relation. Quelle relation tu as avec ton Dieu ? La relation, elle passe par le Saint-Esprit. Et quand on prie, vous savez, une fois j'ai prié avec un loustique que connaît Raymond, qui s'appelle Sylvain Riard, il me dit « prie à midi ». Puis il me taquinait, et je prie, puis je dis « Amen ». Il dit « tu sais que ta prière, elle n'a pas dépassé le plafond ». Et pourquoi ? La Bible dit « tout ce que vous demandez, demandez-le dans le nom de Jésus ». Des fois, on prie des années sans oublier le mécanisme, la clé qui ouvre la prière. C'est le nom de Jésus. S'il n'y a pas le nom de Jésus, il manque quelque chose. Et tout ça, c'est dans la Bible, mais on ne le connaît pas. On ne la connaît pas assez. La relation, la communion avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous lui parlez ? Est-ce que vous le chantez ? Est-ce que vous l'adorez ? Est-ce que vous écoutez sa présence après avoir lu la parole de Dieu ? Parce que l'erreur en Afrique, on mise tout sur l'esprit excessif. En Europe, tout sur la parole sans l'esprit. Notre Dieu est un Dieu équilibré. Les deux marchent de pair. Les deux vont ensemble. Il n'y a pas l'un sans l'autre. S'il y a l'un sans l'autre, c'est tous les excès qu'on peut connaître, dans un sens comme dans l'autre. Jésus a toujours une position équilibrée. L'enracinement dans la parole de Dieu. Ils connaissaient tous, ils avaient une relation personnelle, ils parlaient face à face avec Dieu. Est-ce que dans vos difficultés, vous parlez ? Nous, on a un pasteur, il dit, ben, une grosse facture arrive à l'église, ben, il dit, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas l'argent, ben, je vais. Il va dans le temple, puis il va devant la croix, puis il dit, Seigneur, voilà ta facture. Moi, je suis que gérant, c'est ton église, c'est pas la mienne. C'est pas à moi de gérer ça. Donc, actuellement, on n'a pas les moyens, je te dis merci parce qu'on les a, les moyens. Tu es le banquier du ciel. L'or et l'argent t'appartiennent. Ton église, c'est toi qui la gères. Et c'est comme ça qu'on devrait avoir une foi d'enfant. Si votre enfant, il a faim, il vient vous dire, papa, j'ai faim. Vous, vous avez faim, vous commencez à aller voir à droite, à gauche, qui peut m'aider, etc. Mais qui vient au pied du trône de la grâce ? Il faut venir à Jésus. C'est lui la solution des solutions. Et il va vous trouver une solution parce qu'il va avoir une foi d'enfant. Vous avez foi qu'il va pourvoir à tous vos besoins. Ça, c'est une parole de la Bible, c'est une promesse. Ce n'est pas une parole en l'air. Et depuis 2000 ans, elle se vit chaque jour par des chrétiens dans le monde. Donc vous voyez, le résultat c'est quoi ? C'est qu'alors Dieu peut nous utiliser, une fois qu'on a adopté cette nouvelle mentalité, qu'on a accepté de croître spirituellement pour manifester son règne sur terre. Et si, le dernier passage que je vais lire, ça sera dans 2 Thessaloniciens, je terminerai avec ça. On revient à 2 Thessaloniciens. Et la Bible nous dit quoi là-bas ? Ben, elle nous dit tout simplement, dans 1 Corinthiens, pardon, pas de Thessaloniciens. Dans 1 Corinthiens, c'est la suite du chapitre que j'ai lu, du verset que j'ai lu. Verset 18, donc 2 Corinthiens 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu, ça ne vient pas de toi. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le service de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de réconciliation. Pas la parole de jugement, la parole de réconciliation. Et puis verset 20, nous sommes ambassadeurs pour Christ. Une fois qu'on est rentré dans la réalité de la vie spirituelle, Dieu dit, maintenant tu es mûr, tu es prêt, je peux t'envoyer. Je peux t'envoyer comme ambassadeur. Tu as compris que je t'ai réconcilié avec moi. Maintenant, tu peux porter cette parole de réconciliation à tes frères, dans ton église, dans ta famille, au travail, tes amis. Porte cette parole de réconciliation. Vis-la en étant un chrétien mature cette fois-ci, où tu auras des paroles qui vont construire et pas qui vont détruire. Parce que le but de Jésus, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu, son Père. C'est pas autre chose. C'est pas qu'on se fasse plaisir dans l'église. On peut avoir un beau groupe de louanges et on réconcilie personne. On peut avoir des beaux prêches et les vies ne changent pas. Jacques nous dit quoi ? La parole de Dieu, elle doit transformer notre manière de vivre. Elle doit bouleverser nos valeurs. Elle doit nous remettre en question. Et si on est un ambassadeur ? L'ambassadeur, c'est quoi ? On a besoin de vous dire, vous avez besoin de dire à un ambassadeur qu'il est ambassadeur ? Il connaît son identité. Il sait que quand il est à Genève, s'il appelle corps diplomatique, personne ne va venir l'embêter. Il a une autorité, il représente quelqu'un. Nous, on ne représente pas quelqu'un. On représente le roi des rois, le seigneur des seigneurs. On est revêtu d'une autorité. Est-ce qu'on a compris cela ? Une autorité, pas qui vient de nous, mais qui vient de Jésus-Christ. En tant qu'ambassadeur, est-ce qu'on doit se faire du souci pour le lendemain ? Vous croyez que l'ambassadeur d'un pays, par exemple, je sais pas, il y a un ambassadeur du Burkina à Genève, vous croyez que toutes les semaines, l'ambassadeur va demander au ministère des Affaires étrangères à Ouagadougou, dites, vous êtes sûr que l'argent va bien arriver ? J'ai des factures non payées ? Mais l'ambassadeur, ici, que tout est pris en charge. Tout est pris en charge. Pourquoi nous, on se bat pour le matériel aujourd'hui ? On a, dans beaucoup d'églises, et comme dans le monde, on a fait de l'argent un faux dieu. On a peur que sans argent, s'il n'y a pas l'argent, oh là là, tout s'effondre. Mais ne regarde pas à l'argent, regarde à la source de l'argent. Qui t'a béni par le travail ? Qui t'a béni par l'argent ? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Un ambassadeur, il n'a pas de parole personnelle. Quand je suis ambassadeur à l'ONU, je suis ambassadeur d'Israël. Je ne vais pas dire que, oh, vraiment, on a tort de bombarder ces Palestiniens, c'est injuste. Il n'a pas le droit de dire ça. Il doit parler au nom de son chef d'État. De la même manière, nous, nos bouches, là, il y a des choses qui ne devraient jamais sortir de nos bouches. Ça ne vient pas de Dieu. On n'est pas ambassadeur pour juger, pour critiquer, pour parler, pour enfoncer. On est ambassadeur pour encourager, pour exhorter, pour relever, pour tendre la main. C'est le seul ministère que Dieu nous donne. Si on ne rentre pas dedans, c'est la catastrophe. Un ambassadeur, s'il n'agit pas en fonction de ce que le chef d'État attend de lui, on le relève de ses fonctions. En tant qu'ambassadeur de Christ, si tu ne fais pas la politique que Dieu te demande de faire, si tu ne mets pas en avant la politique de Jésus-Christ, le Saint-Esprit va se retirer de toi. Tu vas faire de la politique, tu crois de Dieu, tu fais en fait la tienne et celle de Satan. Et combien de chrétiens deviennent des co-ouvriers avec Satan et non plus avec Christ, en faisant plus de mal que de bien dans leur église. C'est dangereux. Que le Seigneur vous renouvelle. Et j'aimerais vous encourager en vous disant une dernière fois, là, même s'il y a des bruits de bottes dans le monde entier, même si tout ça, on est déjà au courant. Ne laissez pas votre foi vaciller, parce que la Bible dit que dans les derniers temps, Satan viendra, même pour essayer de déstabiliser les élus. On le sait. Affermissons-nous dans notre identité en Christ Jésus. Soyons des chrétiens spirituels, avec un désir de croître dans leur foi, en passant par la relation avec le Père, par le Saint-Esprit, la lecture de la parole par le Saint-Esprit. Et comprenons qu'à partir de maintenant, quand on est mature, on est investi d'une mission divine. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ. Et nous avons une responsabilité pour chaque pensée, chaque parole qui sort de nos bouches et qui condamne ou qui bénit, qui détruit ou qui construit. Que le Seigneur vous bénisse, parce que je suis persuadé d'une chose, le Seigneur a prévu de grandes choses encore dans le pays de Jax. Et puis je suis persuadé d'une chose, les temps qui arrivent seront des temps propices pour parler de l'Évangile. Malheureusement, il faut souvent que les hommes soient détachés du matériel, détachés de ce qui faisait leur assurance, pour que tout d'un coup, ils se rendent compte que Jésus existe et peut être une solution. C'est pour ça qu'il y a plus de foi en Afrique. Quand tu es au village, tu es malade, il n'y a rien. À part la prière, il n'y a rien. Donc ta prière, elle est une prière de feu. Mais ici, on a la foi dans les médicaments, dans les médecins, dans les remboursements. Mais la foi en Jésus, ce n'est pas ça. On doit les utiliser. Mais la foi en Jésus, c'est dire d'abord, c'est la prière. La prière. Et puis bénir Dieu qui a mis sur nos chemins des médecins, etc. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse individuellement, en tant que famille, en tant qu'assemblée, et que son lien, le lien qui nous unit tous, qui est le Saint-Esprit, renouvelle nos cœurs et nos pensées pour l'aligner sur sa pensée à lui. Et puis qu'on soit des ambassadeurs fidèles et droits dans ce qu'il attend de nous. C'est ce qu'on essaye de faire de manière bien imparfaite au Burkina, et je sais que c'est ce que vous essayez de faire de manière bien imparfaite aussi, malheureusement, dans vos familles, dans vos églises, sur vos lieux de travail. Que le Seigneur vous encourage et vous renouvelle, et c'est des paroles d'espoir, hein, d'espérance. On a tout ça déjà, mais on ne le sait pas et on ne le met pas en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On va juste prier. Père de grâce, Père d'amour, Père de bonté, je veux te bénir pour cette église de Prêves-Saint. Je veux te bénir pour l'équipe de responsables, te bénir pour ces fidèles qui viennent dimanche après dimanche te louer, t'adorer et unis par le même esprit. Père de grâce, Père d'amour, Père de bonté, aide-nous à accepter